que récent. Mieux vaudrait rester jusqu'au cou, dans son bain, des heures sinon perpétuellement, actionnant le robinet du pied droit par intermittence pour rajouter un peu d'eau chaude et, réglant ainsi le thermostat, maintenir une bonne atmosphère amniotique. Mais ça ne peut pas durer. Comme toujours le temps presse, dans moins d'une heure, Hélène Jourdan-Morange sera là. Ravel s'extrait donc de sa peignoir, après quoi, sec, il enfile un peignoir d'un perle rare, dans lequel il se lave les dents avec sa brosse articulée, se rase sans omettre un poil, se peigne sans négliger un sillon, s'épile un sourcil rétif qui a poussé dans la nuit comme une antenne. Puis, saisissant sur la coiffeuse une trousse manucure de luxe en bouton premier choix grain lézard et capitonné satin, posée parmi les brosses à cheveux, les peignes en ivoire, les flacons de parfum, il profite de ce que l'eau chaude a assoupli ses ongles pour les couper sans douleur à la bonne longueur. Par la fenêtre de la salle de bain, artistement aménagée, il jette un regard sur le jardin noir et blanc, sous les arbres nus, l'herbe rase et morte, le jet d'eau paralysé par le gel. C'est un des derniers jours de 1927. Il est tôt. Ayant mal et peu dormi, comme chaque nuit, Ravel est dans de mauvaises dispositions, comme chaque matin, sans même savoir comment s'habiller, phénomène qui aggrave cette humeur. Il grimpe l'escalier de sa petite maison compliquée. Côté jardin, c'est 3 étages, mais de l'extérieur, on n'en voit qu'un. Au 3e, qui est donc de plein pied avec la rue, il examine celle-ci par une fenêtre du couloir pour estimer le nombre d'épaisseurs couvrant les passants, histoire de se faire une idée de ce qu'il doit se mettre. Mais il est bien trop tôt. Pour Montfort-l'Amaury, il n'y a rien ni personne qu'une petite Peugeot 201, toute grise et plus très jeune, déjà garée devant chez lui avec Hélène à l'intérieur. Il n'y a rien d'autre au monde à voir. Le ciel couvert contient un soleil pâle. On n'entend rien non plus nulle part. Le silence règne dans la cuisine, Ravel sur le départ ayant donné son congé à Madame Révelot. Comme d'habitude, il est en retard, peste en allumant une cigarette tout en devant s'habiller trop vite, saisissant les vêtements qui lui tombent par bonheur sous la main. Puis c'est préparer son bagage qui l'exaspère, bien que ce ne soit qu'une mallette à remplir. Son escadron de valises a été muté à Paris depuis 2 jours. Une fois prêt, Ravel inspecte sa maison, s'assure que toutes les fenêtres sont fermées, la porte du jardin verrouillée, le gaz coupé dans la cuisine et l'électricité au compteur de l'entrée. C'est vraiment une petite demeure, et le tour en est vite fait, mais on n'a jamais trop vérifié. Ravel regarde une dernière fois s'il a bien éteint la chaudière avant de sortir, en rageant encore à mi-voix quand d'un coup, comme il pousse la porte, l'air glacial saisit ses cheveux blancs encore humides et plaqués en arrière. Au bas de la volée de 8 marches étroites, frein serré dans la rue en pente, stationne donc la 201, au volant de quoi Hélène frissonne en pianotant sur lui, du bout de ses doigts laissés à nu par des mitaines en tricot bouton d'or. Hélène est une assez jolie femme, qui pourrait ressembler un peu à Roanne de Mazy, pour ceux qui se souviennent d'elle, mais dans ces années-là, pas mal de femmes peuvent avoir un petit quelque chose de Roanne de Mazy. Sous son manteau de sconce dont elle a relevé le col, elle porte une robe à corsage allongé, taille surbaissée avec effet de veste, la partie jupe ornée d'une bande ponctuée d'une boucle de corne, le tout en crêpe de nuances pêche et ornée d'un motif végétal. Très joli. Elle patiente. Ça commence à faire un moment qu'elle patiente. Depuis plus d'une demi-heure, en ce matin gelé d'entre deux fêtes, Hélène attend Ravel qui apparaît enfin, mallette en main, et quant à lui vêtu d'un costume ardoise sous un bref par-dessus chocolat, pas mal non plus. Quoique à la mode ancienne et peut-être un peu léger pour la saison. Canne pendue à son avant-bras, gant retourné sur le poignet, il a l'air d'un parieur élégant, voire d'un propriétaire, dans les tribunes du prix de Diane ou au pesage d'Anguin. Mais éleveur moins soucieux de son yearling que de se démarquer des jaquettes grises classiques ou des blazers en lin. Il monte lestement dans la Peugeot, soupire en s'asseyant, pince aux genoux les plis de son pantalon et les tire brièvement pour éviter que ce vêtement poche. « Eh bien, dit-il en défaisant le premier bouton du par-dessus, je crois que nous pouvons y aller. »